Je suis en compagnie de Gudule au Salon du Livre de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez de l'actualité, je vais dire un peu partout, mais on va plutôt s'attacher à Bragelonne dans un premier temps. Vous avez votre deuxième recueil de romans qui vient de sortir là chez Bragelonne après le club des petites filles mortes. Vous avez donc
les filles mortes au scalpel, avec la musique.
Les filles mortes se ramassent au scalpel.
Les filles mortes se ramassent au scalpel. Oui, enfin bon, c'est juste comme ça pour le plaisir.
C'est une chanson au départ ou...
C'est une parodie de la chanson de Prévert et Cosma, donc les feuilles mortes se ramassent à la pelle. C'est juste un jeu de mots foireux, quoi.
En première question, j'avais envie de vous demander pourquoi vous avez choisi ce titre-là, alors que pour les interviews que vous aviez données pour le premier recueil, vous disiez que ce serait le club des petits garçons morts.
On hésitait beaucoup avec avec Stéphane Marsan, donc de chez Bragelonne. On hésitait beaucoup sur ce titre. Parce que moi, au départ, je voulais appeler les deux tomes le club des petites filles mortes, donc 1 et 2. On m'a dit que commercialement, c'était pas bon, qu'il fallait un autre titre. Donc, on s'était arrêté l'année dernière sur le club des petits garçons morts. Et puis, on était quelques-uns à qui ça plaisait pas vraiment. Et il se fait qu'un journaliste qui s'appelle Lionel Labosse, qui a chroniqué mes bouquins sur le net, a utilisé comme titre générique de la chronique Les filles mortes se ramassent au scalpel, ce qui m'a laissé. Oh, mais je me suis dit, c'est génial. J'adore les parodies, tous ces machins-là. Et donc, j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit, mais si ce titre te plaît, je t'en fais cadeau. C'est d'ailleurs pour ça que mon livre lui est dédié. Il est dédié à Jacques Chambon, qui a été un très très grand éditeur, hein, et à Lionel Labosse, qui a baptisé ce recueil. Voilà.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir à retravailler des textes, puisque ce sont certains des textes anciens, vous avez rajouté des inédits, mais vous les avez un petit peu retravaillés, ça fait quoi? C'est un peu comme un vieil ami qu'on retrouve et on se raconte encore des nouvelles choses ensemble, on évoque le passé, ou des fois ça fait un peu mal au cœur de retoucher des choses ou...
Non, pour moi, c'est même pas imaginable de republier quelque chose sans repasser un petit coup de balayette dessus, parce que, évidemment, quand on écrit et qu'on écrit beaucoup comme moi, on évolue. C'est toujours au niveau du style, hein, au niveau de l'expression, de la manière de dire les choses. Et c'est un plaisir, en fait. C'est une relecture un peu plus poussée, disons. Et j'aime bien. C'est une chose que j'aime bien faire. Et je pense que ça améliore vraiment les textes quand, 10 ans après, on les relit, mais on les relit avec un regard critique, quoi. Donc voilà. De même que j'ai changé mes titres, d'ailleurs, qui pour la plupart, ça c'est important de le dire, ont repris leur titre d'origine. Titre qui avait été à l'époque refusé par les éditeurs, ou les éditeurs m'avaient demandé pour X raisons commerciales, bonnes ou mauvaises, de les modifier. Donc moi j'ai repris les titres d'origine et j'ai par contre repaufiné un peu le texte d'origine, lui, pour le rendre plus actuel.
Texte clairement adulte ou ado plus âgé, et pourtant vous nous expliquez dans la petite introduction de votre dernier recueil que des textes auraient pu se retrouver pour enfants, ça a été retravaillé, etc., etc. Comment on peut transformer une histoire à ce point-là?
Mais il y a une frontière très très ténue entre l'adulte et l'adolescent, parce que bon, aujourd'hui les éditeurs éprouvent le besoin, de nouveau pour des raisons de marketing, pour aussi des raisons de frilosité éditoriale, de cibler de manière très, je dirais, très réductrice, hein, leur lectorat. Or moi, je pense qu'un lecteur est un lecteur, et qu'à partir du moment où on est à même de comprendre les choses, c'est-à-dire à partir de 13-14 ans, pour moi, ces livres sont lisibles par des adolescents. Et c'est frappant parce que certains de mes livres, bon, je me souviens par exemple d'un livre qui est sorti chez Grasset qui s'appelait J'irai dormir au fond du puits. Quand ce livre est sorti donc en jeunesse, Jacques Chambon, qui à l'époque était toujours éditeur chez De Noël, m'a dit, tu vois, ce livre, tu me l'aurais donné. Moi, je le sortais en présence du fantastique. Donc ça veut dire que vraiment cette frontière, elle est floue complètement. Pour moi, à partir du moment où des lecteurs ont envie de le lire, moi je dis banco, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, Alain Évan me disait qu'il vient de faire un salon en Belgique, à Bruxelles, et que le club des petites filles mortes est parti très très bien, essentiellement acheté par des gamins, enfin des adolescents, des lecteurs de 13-14 ans qui se sont rués dessus. Donc voilà, c'est pas la peine de faire du puritanisme, ceux qui ont envie de le lire, ils le lisent, et puis voilà, ils sont à même quand même de faire la part des choses.
Vous écrivez aussi des histoires pour les enfants, avec des jolies histoires, des fois des contes un peu transformés. Quand vous écrivez, vous faites plaisir, ou est-ce que vous ciblez déjà un petit peu un public quand même, ou est-ce que vous laissez justement la question de l'âge à l'éditeur, après vous racontez l'histoire, et puis...
Non, mais je cible sans... de manière instinctive, je dirais. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, que ce soit au niveau des romans, au niveau des contes, au niveau des nouvelles, quand j'ai une idée, ça se met presque en place de soi-même, quoi. Le lectorat qui va être intéressé par ça. Aujourd'hui, c'est une chose à laquelle je ne réfléchis plus. Dans le temps, oui, j'y réfléchissais et je devais faire un ajustement. Aujourd'hui, ça se fait d'instinct parce que, bon, j'ai du métier. Mais ça me paraît... C'est d'ailleurs un exercice amusant de prendre la même idée et de la décliner pour les tout-petits, pour les gamins d'une dizaine d'années et pour les adultes. Je ne l'ai jamais fait, je pourrais le faire. C'est très amusant.
Vous avez des thèmes de prédilection ou pas ?
Oh oui, quand même, je tourne toujours un peu autour des mêmes choses. Je pense que ce qui m'intéresse dans le fantastique, par exemple, c'est le fantastique intérieur aux individus. C'est les vertiges de la mémoire, de la peur, du cauchemar. C'est tout ce qu'on porte en soi comme gouffre. Ça, il est évident que ça revient dans quasiment tous mes bouquins. La folie est toujours présente. Parce que c'est comme ça, je n'ai pas d'explication à donner, c'est parce que ce sont des thèmes qui effectivement me touchent, autant en tant qu'auteur qu'en tant que lectrice ou que spectatrice de film. C'est vrai qu'il y a toujours des enfants dans mes bouquins, peut-être parce que je me suis toujours sentie de leur côté et pas du côté des adultes, ou... Le monde des adultes m'a toujours fait peur avec ces critères qui ne sont pas les miens. Donc, quand je le développe dans mes livres, il est toujours très effrayant. Voilà, c'est en gros, c'est ça, quoi.
C'est pour avoir une petite distance, justement, ou pour pas tomber dans le trop sérieux ou...
J'en sais rien. Je crois que je suis simplement mes envies quand j'écris. Et systématiquement, bon, je me retrouve à mettre des gamins en scène et je me retrouve à être eux, puisqu'il y a quand même une identification très grande de l'auteur avec ses personnages. Et c'est vrai que j'ai une très grande facilité à m'identifier aux gamins, peut-être parce que il me manque une case ou j'ai pas su grandir ou je sais pas. Mais je n'ai aucune difficulté, alors que j'ai relativement peu de livres où les héros sont des adultes et qui sont écrits à la première personne. Parce que je pense que là, j'ai un manque d'identification possible. Alors, est-ce que c'est du recul ? Est-ce que c'est une incapacité à faire partie d'un monde que je ne... Je me suis toujours sentie comme une extraterrestre de toute façon. Donc, bon...
Justement, je voulais vous demander cette écriture à la première personne, c'est plus pour vous ou c'est plus pour le lecteur pour qu'il s'identifie plus facilement ?
Mais c'est d'abord pour moi, parce qu'on écrit d'abord pour soi-même, faut pas se leurrer, on n'écrit pas pour les autres, on écrit pour se faire plaisir à soi. Si ça fait plaisir aux autres, tant mieux, chouette, mais c'est d'abord avant tout pour soi. Moi, j'ai toujours aimé écrire à la première personne parce que, justement, le vertige de l'identification, il est beaucoup plus présent, il est beaucoup plus là, à la fois pour l'auteur et le lecteur, et il y a une espèce de fusion dans le jeu entre le lecteur et l'auteur. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et voilà, quoi. L'écriture à la troisième personne, c'est un théâtre. L'écriture à la première personne, c'est vraiment le vertige du moi, du jeu. Donc, c'est intérieur, quoi.
C'est un petit côté schizophrène.
Totalement, mais de toute façon, les écrivains sont tous schizophrènes. On le montre pas trop, parce qu'il vaut mieux, mais on est tous... Totalement barré, hein. Faut pas rêver. Hein.
Le choix des couvertures, ça s'est fait comment ?
Alors, le choix des couvertures, tout le mérite en revient à Bragelonne. Mais alors, ils ont fait ça de merveilleux, qui m'ont tenu au courant. Par exemple, pour le club des petites filles mortes, il y a eu 3 ou 4 versions différentes. on m'a laissé dire laquelle je préférais, et ça c'est rare. Pour les filles mortes ramassées au scalpel, la couverture était tellement parfaite que je suis restée éblouie, et voilà. C'est vrai que c'est pas toujours le cas. Quand on a des beaux livres comme ceux qu'on a chez Bragelonne, on dit merci, c'est tout ce qu'on peut trouver à dire. Parce que moi je publie énormément, et c'est pas du tout toujours le cas chez les autres éditeurs.
Justement, pour en venir à votre actualité, je suis allé sur votre blog, vous avez énormément de contes pour enfants qui sont prévus, et pour les adultes, il y a des choses en préparation?
Alors, pour les adultes, il y a un livre qui est en lecture en ce moment chez Bragelonne pour Milady, et il y a un livre pour adultes que j'aime particulièrement, lui, qui s'appelle Paradis perdu et qui est une histoire totalement barrée, qui va sortir aux éditions Micmac.
Oui, c'est accepté.
Ça a été accepté et ça va sortir en principe à la fin de l'année.
Cette idée justement pour de prendre votre mère, c'est...
c'est tout.
C'est surprenant, mais en même temps, c'est vrai que le monde le mélange avec les dieux, tout ça.
Mais oui, non, mais je me suis terriblement amusée à l'écrire, hein, mais vraiment amusée. En plus, c'était une expérience particulière parce que généralement, mes livres sont très construits. Et là, je suis partie à l'aventure en même temps que mon héroïne. C'est-à-dire que je n'ai rien prévu. Et du coup, l'aventure était totale, quoi. Et donc, je suis partie dans ce monde de mythologie grecque avec une mère... Enfin, avec ma mère... Je dis ma mère parce que j'ai trouvé ça drôle au départ. En réalité, elle me ressemble plus qu'à ma mère, sauf qu'elle est puritaine à mort. Et qu'elle se retrouve avec des satyres, des dieux qui ont très mauvais genre. Voilà, je ne dis pas la fin, mais il lui arrive des trucs sympas, quand même.
Donc plus, on va dire, du côté parodie, humour, qu'on vous connaît, plutôt que dans des trucs sérieux et un peu tristes.
Ah mais moi j'adore la parodie, j'adore l'humour. Le problème, c'est que par exemple chez Bragelonne, ma trilogie... de la ménopause des fées, c'est pas vraiment le public. On me l'a publié ici parce que Stéphane a bien aimé, parce que Alain a bien aimé, mais le public Bragelonne est un public beaucoup plus premier degré que ça. Donc mes petites filles mortes, ça convient beaucoup beaucoup mieux à ce public-là qu'un truc parodique, quoi, qui en plus peut être connoté plus âgé finalement pour un lectorat plus âgé. La ménopause des fées a surtout fait rire les gens d'une quarantaine d'années. Ce sera peut-être le cas de Paradis perdu aussi. Parce que là, on est dans un trip très différent, très sacrilège. Ils n'ont plus besoin de sacrilège, les jeunes d'aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de ça. Nous, on en avait vraiment besoin. Nous, on avait tout à déconstruire. Alors moi, je continue à déconstruire parce que ça m'amuse, quoi.
Est-ce que vous auriez un conseil de musique à écouter en même temps qu'on lit votre dernier ouvrage ?
Le dernier musique. Ça, c'est une question embarrassante parce que moi, j'écris dans le silence. Il y a des gens qui écrivent avec de la musique, mais moi, j'écris dans le silence le plus total. Alors, j'aurais vraiment. J'aurais trop de mal. Moi, je sais pas. Écouter de la musique, c'est un travail à part entière, quoi. Écrire un livre aussi, mais les deux sont incompatibles pour moi. Donc, difficile.
Vous pouvez rappeler l'adresse de votre blog où on retrouve pas mal de petits billets d'humour et.
Oui, alors entre autres mes chroniques dans Ciné Hebdo qui arrivent avec un peu de retard, donc elles sont plus très d'actualité, mais bon. Alors c'est gudule.over-blog.com.
Quelque chose que vous voudriez rajouter ou nous dire d'ailleurs vos impressions d'être en France, parce que vous êtes pas très loin, mais apparemment vous faites un petit peu désirer sur.
Je suis une extraterrestre. En fait, je viens de le réaliser, quitter un village où il y a une centaine de personnes à tout casser, village médiéval, calme, avec des rues silencieuses et tout, et se retrouver dans le métro parisien, il y a quelque chose, voilà, Gudule von Home, quoi. Non, je me suis beaucoup amusée d'ailleurs en venant parce que j'ai joué, comme je fais toujours, à être quelqu'un d'une autre époque passé dans un univers parallèle, et je regardais les gens dans le métro et je me disais, ces êtres que je vois là, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de me faire passer pour un d'eux. Alors déjà j'avais un jean, ça allait, pull noir, ça va, j'étais dans le ton, et je me disais quand même le déguisement il est bien, il est au point là. Ça fait très bizarre. Voilà. Je suis schizophrène, hein, pas.
Merci beaucoup.